Bonjour, je vous rends en raison du mouvement de grève que vous faites lié à une manifestation portant sur la politique d'emploi dans certaines sociétés de l'audiovisuel public. Nous vous remercions car nous prenons toute la mesure de ce que cela représente aussi de danger pour nous, auditeurs de France Inter. C'est Françoise en Bretagne.
Qu'est-ce que c'est que ces nantis, que ces gros cons là, qui nous parlent de bosser plus longtemps ? Qui se réjouissent de ça à l'entendre l'autre Parizeau, là, c'est très bien, on va bosser plus longtemps, il y a connaît des tas de gens qui sont contents, mais c'est des tas de gens comme elle qui palpent combien par mois, combien ils gagnent ces connards en bossant moins qu'un mec qui va à l'usine, quoi. Ils savent ce que c'est que les 2-8 ou les 3-8, tous ces gens-là, tous ceux qui nous gouvernent et qui sont payés et qui se sont tous réaugmentés et qui gagnent des salaires pas possibles, qui gagnent 10 fois, 20 fois ce que gagne un ouvrier par mois. Et ils veulent nous faire bosser plus longtemps, ces gros cons. Mais eux qui y aillent, ils s'en foutent eux, de bosser plus longtemps. Pas plus qu'ils en branlent, quoi. Ils se fatiguent, ces gens-là. Ils se bousillent le dos, ils se bousillent quoi. Et nous, on laisse marcher ça. Et on continue à laisser marcher ça. C'est même plus de la révolte, c'est de la haine que j'ai envers ces gens-là. C'est de la haine.
Bonjour à tous les AMG. Je souhaitais simplement réagir à aux informations que j'ai entendues à l'instant à 12h30 sur France Culture, où on parlait des résultats des élections et du risque de fraude bien évidemment avéré concernant les élections et le résultat d'Arménie Dejad. Et le commentateur précisait donc dans ce journal, attention aux raccourcis, Arménie Dejad a malgré tout une emprise populaire assez importante. Il expliquait qu'il avait mené une politique populiste qui aurait pu lui attirer beaucoup de voix. Et dans les mesures qu'il citait comme mesures type d'une politique populiste, il citait en exemple, deux exemples, augmentation des petites retraites et augmentation du salaire des fonctionnaires. Alors, en clair, si le populisme revient à augmenter les petites retraites et à augmenter le salaire des fonctionnaires, alors ben on pourra dire vive le populisme. Voilà, c'était Pascal Dumont.
Monsieur Sarkozy va-t-il limoger le futur président du Gabon pour les sifflets entendus dans ses chastes oreilles lors de son arrivée? Bon, en tout cas, le préfet du Var a été, lui, muté parce qu'il ne s'est pas occupé des égouts de la maison de Carla. Voilà, donc le préfet du Var limogé. Donc, messieurs les journalistes, vous pouvez toujours vous émouvoir de la démocratie qui fout le camp en Iran, mais en France, elle fout le camp depuis un moment. On en prend doucement le chemin, tranquillement, et dans 3 ans, on peut peut-être avoir des surprises. Il faut réagir. Ciao.
Ouais, salut. J'étais inquiet quand même, parce qu'effectivement, ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas de nouvelles de notre Laurence nationale. Laurence Parizeau. Et là, ça y est, elle est sortie du bois ce matin sur France 2, tout le monde l'a entendu. Alors pour elle, la retraite à 67 ans, c'est une chance. Hein. Français, française, c'est une chance à saisir. Parce que vous comprenez, quand vous avez 57, 58 ans, on ne vous embauche pas parce qu'on sait que l'année suivante, vous serez à la retraite. Alors que là, vous avez encore toute la vie devant vous. Donc à 57 ans, vous allez retrouver du boulot parce que vous avez encore 10 ans. C'est une chance. Ce qu'il y a de bien avec Parizeau, c'est qu'on n'est jamais déçu. Jamais. Voilà. Il n'y a pas une sortie qui ne soit pas une bouffonnerie. Bon, en plus, je ne sais pas ce qu'elle a fait pendant ce mois-là, mais elle n'a pas l'air très, très, très en forme. Je vous laisse l'écouter, là, 2 secondes, vous verrez.
Encourager l'emploi des PME, c'est le plus grand gisier, c'est le plus grand réservoir d'emploi, les PME en France.
Après l'église de Scientologie, c'est l'UMP qui est maintenant dans le collimateur de la justice pour escroquerie et exercice illégal de la politique. Cependant, il ne sera pas facile de mettre un terme aux agissements de l'UMP, car, comme l'église de Scientologie, cette organisation est soutenue et financée par de grandes puissances financières.
Nous, salariés de RFI, entrerons ce mardi dans notre 6e semaine de grève. Nous nous battons contre un plan qui prévoit la suppression de 206 postes sur l'ensemble de nos services. Un plan qui inclut des licenciements secs, la fermeture de 6 rédactions de langue étrangère, le départ de près d'un tiers des réalisateurs et techniciens. Voilà. Au revoir.
Et bonjour, et voilà pourquoi on n'était pas là hier, pourquoi nous étions en grève hier après-midi à France Inter, en soutien à nos camarades de Radio France Internationale, RFI, qui sont en grève depuis des semaines, contre, vous avez compris, cette auditrice l'indique, contre la suppression d'un certain nombre de postes. Plus de 200 postes seront supprimés, devraient être, pourraient être, etc., être supprimés prochainement. Donc, évidemment, on est en soutien avec nos camarades d'RFI. Vous connaissez Radio France Internationale, quoique pas tous, puisque Radio France Internationale, comme son nom l'indique, est diffusée à l'international. Il y a certaines villes de France, notamment Paris, où on peut écouter Radio France Internationale. Je vous avoue que c'est la radio que j'écoute, parce que c'est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est un bien précieux, faut-il le dire, rayonnement, information, etc. Même si il n'est pas toujours facile pour ceux qui font cette antenne de résister, de garder leur indépendance par rapport aux pressions qu'ils peuvent venir de l'État. Mais ça, c'est une lutte ancienne. Mais évidemment, il n'est pas question de toucher à Radio France Internationale. Voilà pourquoi nous avons soutenu cette manifestation hier. Et on en a, avec Renaud Lambert, rapporté un certain nombre d'échos qu'on va vous faire entendre aujourd'hui. Bien évidemment, c'est une lutte parmi d'autres. Il y a des licenciements, que ça arrive de tous les côtés, ça se précipite encore. Michelin, Obad, Marionneau, Motorola, etc. Ça arrive de tous les côtés. Mais les médias, c'est important aussi. Le journalisme, c'est important aussi. C'est la liberté. Il en va d'une liberté qui est la nôtre, qui est donc la vôtre, et qui, en l'occurrence, concernant RFI, concerne la liberté de pas mal de monde sur cette planète, dans ce monde. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel et toute l'équipe, bienvenue pour ce quatrième café repère aux AMG Meusiens. C'est toujours à l'Estaminet à Verdun, à partir de 20h, demain mercredi 17 juin. Après le travail, on discutera du temps libre. Ça peut paraître saugrenu dans cette période, mais si on y réfléchit, pas tant que ça. Donc à demain, et bienvenue à tous. C'était Patrick de la Meuse.
Salut Daniel, c'est Jean-Michel, élu socialiste à Bordeaux. Une bonne nouvelle dans un océan de mauvaises. À Abzac, à 155 km de Bordeaux, la famille d'origine marocaine Taja est régularisée. Alors je vais te faire du zoo là. Le papa, un vieux monsieur de 81 ans, a travaillé 25 ans pour la municipalité d'Ajaccio. Il prend sa retraite en 93, repart au Maroc, se marie, fait 3 enfants et patatras, maladie. Évidemment, il rentre en France avec sa famille et se faire soigner. Il y a vécu plus de 30 ans et travaillé régulièrement. Et repatatras, il y a 4 ans, refus de renouvellement de son titre de séjour. Combat, avocat, appel rejeté, invitation à quitter le territoire, tout bien. Les enfants ne parlent que le français. Ils ont passé toute leur vie ici. La fille élue au Conseil général des jeunes fait du latin mieux que les jeunes gaulois. Bref, on a vu rouge. Mobilisation, jamais vue à Coutras, l'initiative des enseignants, comité de soutien, RES. Pétition, 2200 signatures et parrainage républicain, le premier à Coutras à l'initiative du maire, avec députés, conseillers généraux, municipaux, maires et enseignants, des centaines de citoyens de toutes obédiences. Seul regret, l'absence du maire de la commune de la Chamille qui n'a pas souhaité s'associer au soutien. Bilan, la préfecture se ravise devant la mobilisation et la Chamille y reçoit hier un courrier de régularisation pour les motifs demandés depuis 4 ans par l'avocat. Pas grave, juste perdu 4 ans, la souffrance de la Chamille et l'argent du contribuable pour une loi à la con. On n'est plus dans le droit mais dans le fait du prince, qui distribue la lettre de cachet ou la grâce, simplement parce qu'il y a pression. Alors continuons, la pression ça paye les copains, un seul mot, résistance. Et si vous voulez soutenir la Chamille Taja, taja.blogspot.com, Taja ça s'écrit T-A-2-J-A. Bonsoir et continuons le combat.
Salut là-bas, ici c'est le repère de Bourg-en-Bresse. Alors rendez-vous aux AMG et MGR de Bourg et sa région. Ce jeudi au bar Resto Bio Le Petit Milieu, rue du Pelou à 20h. Alors pour ce repère, projection suivie d'un débat sur le film polémique qui tourne en boucle actuellement sur le net, L'argent dette. Donc bienvenue aux AMG qui nous rejoindront pour la première fois. Ah, au fait, Daniel, au sujet de ce film, comment on pourrait recueillir l'avis du professeur Lourdon, notamment sur les solutions proposées dans ce film par rapport au crédit, les finances et tout ce qu'on connaît en crise maintenant. Allez, salut à tous.
Bonjour, c'est Agnès du Café Repère de Lons-le-Saunier. Pour le dernier Café Repère avant les vacances, nous recevrons mercredi 17 juin à 20h30 au bar Le Tiffany, rue Rouget de Lille, les surveillants pénitentiaires de la prison de Lons-le-Saunier qui viendront nous parler des terribles conditions de leur travail face à la multiplication des tâches imposées liées à une surpopulation carcérale infernale et du mouvement national qui a réuni tous les syndicats au mois de mai dernier pour un blocus devant les établissements pénitentiaires sous l'accusation. L'administration sera tenue responsable et coupable des événements à venir. Plus d'un mois après leur mouvement, le problème reste entier. Venez nombreux les entendre et débattre avec nous.
C'était pour réagir aux obsèques de Marbongo. Au deuxième rang, troisième rang, il y avait Bernard Kouchner qui était au milieu de tous les dirigeants dictateurs africains. Mais pour moi, c'est une image totalement surréaliste quand on se souvient des combats passés du French Doctor. Voilà, salut à tous.
Autre conflit social, celui qui touche RFI depuis plus d'un mois maintenant. Une délégation manifestera cet après-midi devant l'Elysée aux côtés des personnels de France Télévisions et de Radio France.
16 juin 2009.
Les salariés de Radio France Internationale demandent un moratoire sur un plan social qui prévoit la suppression de 206 emplois sur 1000.
Vous nous rejoignez, vous faites bien, vous êtes à la file, 15h à Paris, 13h en temps universel. Bonjour, le salon du Bourget s'est ouvert hier dans une ambiance plutôt morose. Pas de morosité en revanche du tout dans la manifestation de RFI. 37e jour de grève ce mardi 16 juin. Les salariés se mobilisent contre le plan social qui prévoit, je vous le rappelle, la suppression de 206 postes.
Abrimos este boletín informativo con un despacho urgente. 6 semanas de huelga cumplen los trabajadores de Radio Francia Internacional.
RFI n'est pas en mesure de vous proposer le programme habituel. Veuillez nous en excuser.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert et toute la bande. RFI, toute la diversité du monde.
Le changement fait peur, et ce qui est normal. Mais après, on va se rendre compte que c'est une fantastique opportunité pour toutes les marques, pour TV5 Monde, pour RFI, pour tout ce qui est pour développer le plus possible à la fois RFI, à la fois TV5 Monde et à la fois France Inter. Donc il y a un potentiel de développement énorme pour France Monde, pour RFI, TV5 Monde et France Inter. Pour les médias radio, a eu un avenir formidable.
Et les sections longues d'RFI continueront à exister.
Tout à fait. Il n'y a pas de remise en cause chez RFI. Mais vous vous rendez compte toutes les opportunités qu'on a? Moi, je pense que ça va être créateur d'emplois. C'est-à-dire, imaginez-vous que demain matin, on passe de 44 millions à 100 millions, à 150 millions, et qu'on puisse prendre simplement une partie des 3 milliards de gens sur le téléphone mobile.
Donc France Monde va créer des emplois et ne va pas en supprimer?
Ah ben moi, je pense qu'à la fin du plan de 3 ans qu'on m'a proposé, France Monde va créer des emplois, c'est bien évident. Ou alors on aura échoué, et donc vous aurez le responsable de l'échec en face de vous. Et j'espère de tout mon cœur qu'on va réussir, et je suis sûr qu'on va réussir.
Mais qu'est-ce qu'ils ont à brailler comme ça, ces gens, dans cette avenue Montaigne si, si élégante, si chic, entre la place de l'Alma et les Champs-Élysées? Qu'ont-ils donc, ces salariés, journalistes de RFI? Pas seulement d'ailleurs de RFI, il y avait des gens de Radio France, il y avait des gens de France Télévisions, de l'AFP, l'agence France Presse, de TDF, etc. Mais qu'ont-ils donc? Alors que la direction de RFI, Radio France Internationale, rappelle son unique objectif, assurer le développement de l'entreprise, sa pérennité, son dynamisme, sa compétitivité, RFI doit repartir en conquête, retrouver une place majeure dans le paysage audiovisuel international. Cela repose d'abord sur le talent et l'expertise de ses équipes. Cela passe aussi par une nouvelle stratégie, de nouvelles langues, de nouveaux supports de diffusion. C'est tout cela qu'il s'agit désormais de bâtir ensemble. Voilà, c'est un beau discours. Eh ben, ça les a pas touchés. Ils marchent pas là-dedans, tous ces gens qui marchaient hier dans les rues de Paris. Il faut bien dire que c'était pas très très nombreux, mais c'est un secteur limité, c'est vrai. Et ils en étaient à leur 37e jour de grève pour défendre cette partie de l'audiovisuel public qu'est Radio France Internationale. Alors vous avez entendu prononcer le nom de Alain de Pouzillac. Vous allez sans doute au cours de ce reportage entendre parler. Vous allez entendre le nom de Christine Ockrent. Et voyez comme ces salariés, ces journalistes ont un esprit quand même un peu bizarre. Parce que qu'est-ce qu'ils diffusent ? Qu'est-ce qu'ils diffusent ? Sur quoi nous informent-ils ? Eh bien, sur le salaire. Quoi de plus bas comme information ? Sur le salaire de Christine Ockrent et d'Alain de Pouzillac. 310 000 euros annuels, Christine Ockrent. C'est bien payé. Les syndicats n'ont pas hésité à comparer ses revenus avec ceux de chefs d'État, précisant que ses salaires sont supérieurs à ceux de Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Barack Obama. Encore ne mettent-ils pas dans ce total les différents ménages opéré par la reine Christine, 10 000 euros, sans compter d'autres interventions un peu à droite et à gauche. Oui, à droite et à gauche, indifféremment. 10 000 euros, c'était pour présenter une interview avec Ingrid Betancourt. Voilà, alors, voyez le mauvais esprit d'un côté, c'est voilà. Et puis de l'autre, eh bien, le redéploiement d'une grande branche, d'une grande représentation de l'audiovisuel public et tout simplement de la France à travers le monde. En deuxième partie, si on a le temps de cette heure de là-bas, si j'y suis, on retournera à Lille, à l'École supérieure de journalisme de Lille, où vous vous en souvenez, avec Antoine Chao, on a travaillé avec les étudiants de cette école qui s'apprêtent à rentrer dans la carrière quand l'enseignants n'y seront plus et sont attirés évidemment par ça. Attirés par quoi ? Par ceux qui étaient hier dans la rue, où nous étions nous autres aussi, ou bien par les salaires mirobolants comme ceux de Christine et d'Alain. Eh ben, on va voir, en tout cas, à travers les travaux que nous avions fait ensemble, les reportages que nous avons fait ensemble, ces petits que nous faisons là-bas, si j'y suis, fait des petits, on verra où ils en sont, eux, et où en sont leurs aînés. Dans les rues de Paris, c'était hier, RFI, toute la diversité du monde.
Aliénation, privatisation, capitulation, quelle est solution? Hey, oh, reprends ton mégaphone. Pollution, suffocation, la corruption, ségrégation, désapprobation, pacification.
La direction de RFI vient nous licencier. Il y a 206 suppressions de postes, 11 seulement à la rédaction Amérique latine dont je travaille. On n'est pas assez rentable et on a un déficit, on nous parle de parts de marché, on est à...
Donc RFI c'est comme Goodyear, c'est comme Continental, c'est comme toutes ces entreprises qui subissent des licenciements en ce moment.
Voilà la contradiction. L'État est l'actionnaire unique et principal de RFI et c'est l'État qui licencie. Pour nous on est service public, pour eux on est une variable de plus dans le marché de l'audiovisuel. C'est pas notre conception des choses.
C'est un plan social mené par Mme Ockrent et M. Pouzillac, un plan social de 206 suppressions d'emplois, donc un effectif sur 4 à Radio France Internationale. Ils sont arrivés en disant, vous êtes merveilleux à RFI, on va développer tout, vous avez des qualités, vous avez de l'expérience. Et 4 mois après, on nous a annoncé un plan social avec 206 suppressions d'emplois c'est l'État qui licencie, c'est l'État le principal actionnaire de Radio France Internationale, donc on ne comprend pas non plus, nous.
Et elle a des prétentions salariales un peu spéciales aussi, non?
Plus de 300 000 euros par chacun, Madame Ockrent et M. Boussillac, oui.
300 000 euros?
Par an.
Par an? Oui. C'est plus que la plupart des journalistes de RFI.
Oui, mais oui. Mais oui.
C'est plus que?
C'est plus qu'Obama.
Oui, on nous reproche un déficit, mais là, il y a... Avec, juste avec des licenciements, on pourrait économiser plus d'un demi-million d'euros.
Vous vous rendez compte hein, qu'on se, on rentre dans une république bananière. Le jour même que Omar Bongo est enterré et que RFI fait une opération qu'on n'a jamais vue pour le président Mitterrand, pour Senghor, ce grand ami de la France, etc. Ils envoient deux présidents, ils nous obligent de transmettre 3 heures en direct, quelque chose qu'on n'a jamais fait RFI. C'est vraiment
là,
une
république. Aujourd'hui, pour les funérailles, RFI est obligé de diffuser 3 heures en direct.
Absolument, et pas seulement pour l'Afrique, pour le monde entier. C'est quelque chose qui est directement imposé par les directions. C'est scandaleux. On se demande où on va. Une république bananière n'aurait pas fait ça. C'est un grand ami, comme on le sait, de Kouchner et d'Ockrent. Ockrent est notre directrice générale. C'est pas une coïncidence. On a du mal à le croire.
Et pour vous, cette politique éditoriale a un rapport avec la politique sociale qui vise à licencier, à supprimer certaines langues?
Absolument, parce qu'on vise à avoir un groupe, un corpus de journalistes soumis, comme à l'image de France 24, des jeunes qui en veulent évidemment, qui savent les réalités en dehors pour les journalistes, et donc ils sont prêts à accepter des semaines de 50 heures, ils sont prêts à accepter des directives plutôt imposées, et donc on voit des publics reportages passer, on voit ces sortes de reportages entre guillemets de gens qui ont pillé leur propre pays, qui ont certainement aussi donné de l'argent aux partis politiques ici, et qui quelque part, on a l'impression que la direction, comme le gouvernement, veut assurer son avenir avec les successeurs de Bongo, avec donc le même système en place.
Donc une radio au service de l'État et des salariés précarisés comme dans toutes les boîtes qu'on voit fermées aujourd'hui.
Tout à fait, on voit à l'image de l'Italie, on le voit aussi aux États-Unis. Malheureusement, c'est vraiment banalisé, c'est cette sorte de fast-food où on interdit la réflexion, on interdit le contre-pouvoir qu'est le journalisme même.
On est avec Jean-François Théaldi, secrétaire général du SNJ-CGT.
Bah écoutez, tout d'abord, bien entendu, la CGT, comme d'autres syndicats, sont aujourd'hui dans la grève pour protester contre ce plan sauvage de licenciement RFI qui obère l'avenir de cette station internationalement reconnue. Il faut aujourd'hui que M. de Pouzillac s'assoie autour d'une table et ouvre de vraies négociations avec l'intersyndicale, avec les gens qui sont en grève. Et il faut surtout que l'État actionnaire intervienne. Ça, c'est la première raison de notre présence. Et puis, il y a aussi une forte délégation de la Société de France Télévisions, puisque nous, ce n'est pas des licenciements secs, mais c'est d'ici 2012, 900 suppressions d'emplois en moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État est en train d'asphyxier l'audiovisuel public à travers RFI et France Télévisions. Donc, c'est un combat commun qu'on mène.
C'est un combat commun qu'on mène, évidemment, l'audiovisuel public menacé. Et un jour, et oui, et ben, il se pourrait bien que ça se rapproche de notre maison de la radio et de Radio France. Voilà pourquoi nous faisions grève hier et voilà pourquoi nous participions à cette manifestation avec les confrères d'RFI. Un journaliste d'RFI évoquait la couverture extraordinaire de l'enterrement de Monsieur Bongo et qui était une couverture extraordinaire, mieux que Jean-Paul II, Senghor et Aimé Césaire et de Phnom Penh à Lima, d'Erevan à Oslo. Aucun auditeur n'a pu échapper à cette Bongo-mania pour laquelle les deux antennes Afrique et Monde avaient été réquisitionnées alors même que les salariés étaient dans la rue et que la radio entrait, RFI entrait dans sa 6e semaine de grève. Vous pouvez sur le net facilement retrouver les sites de RFI, de RFI Riposte, et c'est intéressant tout d'un coup d'entendre ces journalistes sortir de leur gond et dirait-on faire leur métier comme ils ont rêvé de le faire. On le verra avec les étudiants de l'école de Lille tout à l'heure si on a du temps. On retrouve Jean-François Théaldi, secrétaire général SNJ-CGT.
Bah écoutez, je crois que dans la vague néolibérale de privatisation que met en place ce gouvernement, l'audiovisuel public n'est pas épargné. Et on s'aperçoit que, y compris dans l'audiovisuel public, à l'exemple du PDG de RFI, il y a aussi des patrons voyous dans l'audiovisuel public. Donc M. Sarkozy, qui fustige dans les paroles les patrons voyous, ferait bien de les remettre dans le droit chemin.
Et donc, cette situation de pourrissement pendant 6 semaines, on a du mal à comprendre. Un gouvernement qui appelle au dialogue social, qui appelle à la cohésion. On nous a même dit, ça c'était Laurence Parisot, qu'on était tous dans le même bateau. Vraiment, on n'arrive pas à s'y retrouver là-dedans.
Écoutez, je crois que c'est là qu'on peut voir que des paroles aux actes, il y a quand même un long chemin à parcourir. Hier, M. Sarkozy était devant l'Organisation internationale du travail pour vanter les mérites du dialogue social au niveau international, en proposant même que les salariés aient de nouveaux droits. Il fait tout le contraire en France. Double langage, double discours, mais il nous y est habitué.
Voilà, alors, propos de Jean-François Attealdi, secrétaire général de CNJ-CGT, il y avait également l'AFP, l'agence France Presse, le représentant de l'agence France Presse, inquiet, eux aussi, pour leur avenir.
Les statuts de 57 de l'AFP, c'est une loi qui a été longuement élaborée et discutée pour garantir à l'AFP et les moyens de son existence et son développement et son indépendance rédactionnelle. L'AFP n'est pas une agence d'État, et elle n'est pas une entreprise privée. C'est une sorte d'OVNI dans son statut. Il n'appartient à personne, ou bien au peuple français, puisque c'est une loi de cellule du peuple français qui l'a doté de son statut. Et cet statut, c'est un équilibre parfait qui garantit que l'AFP ne peut pas tomber sous les contrôles d'aucun groupe idéologique, politique ou économique.
Donc si on s'est cassé la tête pour mettre au point ce statut un peu bizarre, c'est qu'on a estimé qu'il était important que l'AFP soit indépendante.
Voilà, c'est absolument important, pas seulement du point de vue de l'information, c'est sa crédibilité, son indépendance, et du droit de tous les citoyens à une information objective et crédible, c'est aussi économiquement sa possibilité de réussir dans le monde. Parce qu'une AFP non indépendante perdrait sa crédibilité, et sa crédibilité, c'est tout son capital. Et donc, cette transformation, d'un, laisserait l'AFP sous la coupe des pouvoirs économiques, et dont l'indépendance, on sait qu'il n'y a pas d'indépendance rédactionnelle s'il n'y a pas d'indépendance économique, et transformerait cette agence qui, à niveau international, a une crédibilité, pas seulement à la France, à le monde, des personnes objectivité.
Bonjour.
Alors là, c'est l'AFP. Qu'est-ce que l'AFP vient faire dans une manifestation organisée par les gens de RFI ?
Eh bien, d'abord, par solidarité. Ensuite, parce que nous aussi, nous sommes menacés par des projets de gouvernement, des suppressions d'emplois et, pour ce qui nous concerne, un changement de notre statut qui pourrait très bien se traduire par une privatisation de l'agence.
La privatisation, c'est pas mal. C'est un moment où on voit que le secteur privé fait feu de tout bois, fonctionne particulièrement bien, où l'État se réengage dans tous les secteurs comme la banque, l'assurance, l'automobile. En France, on veut plutôt privatiser le secteur de l'information.
Eh bien, on ne le dit pas pour ce qui nous concerne, mais on veut nous transformer en société anonyme afin de nous rendre, qu'on rentre dans le rang, qu'on n'a plus notre statut d'indépendance. Dans un premier temps, ils nous promettent une entreprise publique, mais puisqu'il s'agira d'une société anonyme, comme Gaz de France ou d'autres entreprises, La Poste pourrait très bien être privatisée par la suite.
Bon, et ça représente une menace, une privatisation de l'AFP ?
Énorme, absolument énorme. D'autant plus qu'en France, comme nous le savons, les médias sont exceptionnellement concentrés et pour beaucoup entre les mains déjà d'entreprises industrielles qui ont des intérêts bien compris, comme Bouygues ou Bolloré ou LVMH. Donc une privatisation dans un cadre français serait particulièrement inquiétante. En plus, puisque l'information de presse généraliste, comme nous le faisons, est presque par définition pas rentable. Donc on risquerait de se voir de perdre notre mission d'intérêt général et d'être de plus en plus cantonné dans certains secteurs et donc on s'assurait d'être une agence de presse internationale généraliste.
Pour la manifestation hier des salariés de RFI, des journalistes de RFI et soutien aussi de Radio France, de certains de Radio France, et puis là on le voit avec l'AFP, ce qui agace beaucoup évidemment ces personnels, ces salariés, c'est un certain mépris, disent-ils, c'est pas ce que nous disons nous, bien sûr, là, bah, je suis, un certain mépris de Madame Christine Ockrent, la reine du mépris. Pris, dit-on, Christine Ockrent, en effet, dans Jeune Afrique du 10 mai, tout récemment, a rappelé, je cite, « Le journalisme, on l'oublie trop souvent, c'est aussi prendre des risques et aller sur tous les fronts où se joue l'histoire. Ce n'est pas un dîner en ville où l'on ricane entre people. » Et l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné, qui a rapporté ses propos, a fait le commentaire qui suit. Je cite, « Et c'est sûrement en vertu de ce principe que Christine Ockrent a pris le risque d'aller le 15 mai au bras de son PDG, Alain de Pouzillac, sur un front où se joue l'histoire, la montée des marches à Cannes. » Fin de citation. On retrouve quelqu'un qui n'était sans doute pas sur les marches de Cannes, Dominique Pradalier.
On est avec Dominique Pradalier, secrétaire général du syndicat national des journalistes, SNJ. Alors, on est venu pour une manifestation au départ sur RFI. On s'aperçoit qu'il y a aussi des gens de l'AFP, des gens de télédiffusion, des gens d'un petit peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que les mêmes méthodes sont à l'œuvre dans toute la presse. Et je parle aussi de la presse écrite, c'est-à-dire rentabilité, rentabilité, rentabilité à tout craint. On n'entend plus jamais un employeur dire « information » ou « qualité de l'information ». Ils sont en train de tuer l'information libre dans ce pays, l'information de qualité. Et on s'en rend compte, effectivement, au travers des combats menés aussi bien dans le service public de télévision qu'en radio, aussi bien au travers du combat très long que mène l'AFP et de tous les autres secteurs. Par exemple, Next Radio est en grève aujourd'hui, mais dans beaucoup d'autres entreprises, les journalistes se battent pied à pied pour empêcher que la qualité de l'information ne disparaisse. Il n'y a quasiment plus dans les hauts dirigeants de directeurs issus du service public. Ils viennent de Thalès, de Goodyear, ils y retournent, ils viennent faire des cartes de visite, etc. Donc ils appliquent exactement la même chose qu'ils appliqueraient pour des yaourts, pour des pneus. Et ils n'en ont rien à cirer de la qualité de l'information, de l'indépendance des rédactions, du pluralisme nécessaire et surtout de la conscience des citoyens. Je le regrette, mais on se bat contre. Et je pense qu'on réussira parce que les citoyens commencent à se réveiller ici et là en se rendant compte qu'un pays sans information libre est un pays qui est en pleine régression et cela mène à des chemins hasardeux en politique. Et donc les citoyens commencent vraiment à bouger maintenant. Nous attendons et nous tendons la main, nous attendons la leur.
Monsieur le secrétaire général de la CGT Radio France qui a déposé un préavis de grève aujourd'hui pour soutenir nos collègues de RFI et surtout pour montrer que Radio France et RFI, c'est la radio publique et c'est
Marie-Hélène Elbaz.
Une solidarité inconditionnelle.
Bon alors, quelles sont les menaces sur Radio France ? Parce que pour l'instant, c'est RFI qui est touché, mais bon, est-ce que ça va s'arrêter là ? Est-ce que...
À Radio France, on est touché principalement pour l'instant par la remise en cause de la convention collective. La convention collective qui s'étendait à l'ensemble de l'audiovisuel public, radio et télévision, et qui maintenant était dénoncée par les employeurs et nous oblige à renégocier entreprise par entreprise, donc forcément à être beaucoup moins fort, beaucoup moins nombreux et isolés dans chaque entreprise.
Divisé pour mieux régner, on pourrait dire ?
Absolument, divisé pour mieux régner. Ça fait un moment qu'on voit ça dans l'audiovisuel public, c'est le sens de la loi qui a créé l'entreprise France Télévisions, qui a créé l'AEF. et qui maintenant...
c'est audiovisuel et extérieur français.
Voilà, absolument, et ce qui amène les 206 menaces de licenciement à RFI.
Et sur la nomination, au niveau de la présidence, est-ce que ça fait partie d'un changement dans les modes de pilotage de cet audiovisuel français ?
Bah, la nomination par le président de la République du président d'une entreprise de l'audiovisuel d'un président de médias, pour nous c'est extrêmement grave et on lui a dit à plusieurs reprises c'est une menace de l'indépendance de la radio publique et de la télévision publique puisque ce sont les deux présidents nommés directement par Nicolas Sarkozy. Donc qu'en est-il et quel avenir pour l'indépendance de nos antennes ?
Est-ce qu'on pourrait lire le fait que RFI fasse 3 heures de direct aujourd'hui sur les funérailles d'Omar Bongo à l'aune de cette remise en question d'une indépendance éditoriale ? Les journalistes de RFI qu'on peut interroger à ce sujet aujourd'hui voient ça pas forcément d'un bon œil.
Moi, je crois que la réponse est dans la question. toutes nos inquiétudes sont là, vraiment. Quelle liberté d'expression il va y avoir dorénavant sur nos antennes, même si nous, à Radio France, notre PDG nous assure de son indépendance. On attend des actes et des faits et on jugera sur ce qu'on entendra.
Une nouvelle étape dans l'évolution de l'analyse des paramètres qui lâchent l'affaire, qui part, qui reste. Certains ont plusieurs vestes, d'autres sont contagieux comme la peste. Et tous veulent du changement. Mais quel changement ? Changer de gouvernement, changer de rapport avec les gens, changer les enfants, changer en plus conscient, changer le monde, changer le présent. Ça, c'est sûr, le futur en les pans. Mais quelle solution pour lutter contre la décomposition sociale qui s'installe et pénètre chacun d'entre nous qui ne connecte pas son intellect. Je parle clairement pour que tout le monde me comprenne. Autant mes ennemis que mes amis que j'aime. Sommes-nous nés sur cette planète pour reproduire inlassablement les rapports humains guidés par l'incrédulité des gouvernements. Je ne veux pas de leader mais un monde qui m'inspire. Je ne veux pas de pays mais un enfant qui sache sourire. Pour ça, assassin combat jour après jour. Oh, et l'Odyssée suit son cours.
Et bien malgré ça, malgré ce qu'on vient d'entendre, ou peut-être à cause de ça, les jeunes gens veulent devenir malgré tout journalistes. Ça peut paraître bizarre. On espère que c'est pour des bonnes raisons, c'est-à-dire celles qui, quand le journalisme est un contre-pouvoir et s'oppose et dénonce le pouvoir, ou l'interroge en tout cas, voilà, c'est le bon côté des choses. Et on avait, avec Antoine Chao, rencontrant les étudiants et en travaillant avec eux à l'école supérieure de journalisme de Lille, parfois cette impression. On a fait avec eux une série de sujets, de reportages, et il nous reste assez de temps pour vous en présenter un, en espérant avoir le temps de vous en présenter deux, et ce sera un. Et c'est un travail qui nous a particulièrement, un reportage qui nous a particulièrement passionné, de Lucie Romano, une étudiante, intitulé Deuil.
J'ai 26 ans, je m'appelle Jean-Luc. Je viens voir mon grand frère qui est décédé il y a moins d'un an.
J'ai vu que vous étiez là depuis un moment au cimetière de l'Est. Est-ce que vous lui parlez ?
Bien sûr, je viens le voir tous les jours. Je nettoie sa tombe, je lui parle. Faut jamais oublier les gens qu'on aime. Ma mère, elle vient le matin. Moi, je viens l'après-midi et ma grande sœur aussi, elle vient. Quand je suis tout seul, je réfléchis. Je suis tranquille quand je suis tout seul. Ça me rend triste, mais ça me rend quand même heureux parce que je sais que je viens voir mon frère. Au moins, il n'est pas seul. Mon frère est décédé d'un accident de voiture. Et j'y penserai toute ma vie. Tout partout dans ma maison, il y a les photos de mon frère. Mon frère est présent dans toutes les pièces. Tous ses affaires, ses vêtements, tous ses objets, ils sont chez moi. Rien et rien ne bougera. Les affaires resteront toujours là, jusqu'à temps que je rejoins mon frère. Quand je m'endors, je pense à lui. Quand je me réveille, je pense à lui. Je pense toujours à lui, tous les jours. Je reste tout seul dans mon coin. J'en parle pas. C'est entre moi et lui. Personne n'a le droit de savoir ce que je pense, Et ce que je lui dis, je préfère rester seul avec lui.
Face à face avec son mort, avec le vide qu'il laisse. Comment vivre malgré l'absence ? Restent les gestes anonymes, secrets, les gestes du deuil intimes et ordinaires. Conversation posthume, un documentaire de Lucie Romano.
Mon beau-fils, il est tombé dans le coma dans mes bras. Alors c'est des choses qu'on n'oublie pas. On ne peut pas oublier ça. Moi j'en parle, même si je pleure, j'en parle. J'ai la photo sur le meuble. Et tous les matins, un petit bonjour, un petit bisou. Quand je fais les poussières, toutes les semaines aussi, sur son cadre, voilà. Je crois qu'elle restera jusqu'à ce que moi, je meure. Puis alors à côté, vous voyez, pour penser à lui, j'ai mis la photo de son fils et puis de sa petite-fille. Ce qui fait que j'ai mon beau-fils, mon petit-fils et mon arrière-petite-fille côte à côte.
Est-ce que vous pensez que vous avez oublié, par exemple, les traits de son visage ?
Un peu. On oublie un peu, oui. Moi, je trouve qu'on regarde plus la voix que le visage.
Qu'est-ce que vous lui dites à votre beau-fils ?
Et je lui dis bonjour, et puis je lui dis, t'as une belle petite fille, puisque c'est lui le grand-père. Hein. Et j'aime pas tellement qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place non plus. Parce qu'évidemment, ma fille a refait sa vie, et ça, c'est dur à accepter quand même. Parce que du fait que la petite, elle dit « papy », ça me fait mal. Je trouve qu'on aurait dû trouver un autre nom. Papounet, par exemple. Mais papy, ça, je pense que ça lui est réservé à lui.
Alors, Madame Caron, je voudrais vous demander d'abord qui est mort.
Mon fils. Il avait 20 ans. Il y a 16 ans. Comme c'est un suicide, ça reste un mystère. Donc ça, je peux absolument pas vous en parler.
Je ne sais pas si vous êtes heureuse ou pas, mais est-ce que vous... Vous pensez que vous arriverez à refermer la plaie ?
Il reste la cicatrice. Mais pour répondre à votre question, je suis heureuse actuellement. Oui. Mais il y a longtemps. Hein. Je n'ai pas un deuil de 2 mois. Hein. Quelqu'un d'autre vous dira qu'il est malheureux. Mais moi, je suis heureuse, oui. J'ai un lien social, je vis normalement. Oui.
Vous avez beaucoup de peine encore aujourd'hui ?
La peine, ce que les Canadiens appellent la douce peine. C'est-à-dire une peine qui ne fait plus souffrir de façon aiguë. C'est paisible, quoi. Et moi, je trouve que ce terme canadien, il est vraiment très, très révélateur.
Vous m'avez parlé d'une urne ?
Elle portait les cendres de quelqu'un que j'appelais mon beau-père, qui n'était pas réellement mon beau-père, qui était un ami de longue date. Il n'y a pas d'enfants chez nous, il n'y a pas d'animaux. Donc son urne était dans le fauteuil, dans un petit carton qui est donné par l'entreprise de pompes funèbres. On l'a déposé là. Et puis on s'est habitué à sa présence, mais vraiment sans le sanctuariser, sans non plus faire comme s'il n'était pas là, et puis avec des attitudes qui choquerait peut-être, mais bon, je parlais au moment où il faisait très froid, il vous arrivait de dire, bah pour finir, t'es aussi bien là qu'au cimetière, parce que il gèle à moins 10.
Est-ce qu'on pourrait dire, je sais pas si ça va vous choquer ou pas, qu'il faisait partie des meubles ?
Ah, je peux pas dire qu'il fait pas, il faisait partie des meubles, il faisait partie de notre environnement au quotidien. Et je répète, même si on se précipitait pas sur lui le soir en disant bonjour Pépé, on savait qu'il était là, quoi. Est-ce que c'est plus bizarre pour quelqu'un d'avoir son urne dans une vitrine ou de quelqu'un qui va tous les jours sur la tombe de son défunt?
Mon mari, ça fait 2 ans et demi qu'il est décédé. Je viens au cimetière tous les jours. Tout le monde dit on oublie avec le temps et tout ça. Moi, je n'oublie pas. J'ai de la mémoire et j'oublie pas. J'étais très heureuse avec mon mari. Je continue.
Qu'est-ce que vous lui dites ?
Ce que j'avais l'habitude de lui dire, je vais faire mes courses, j'en ai pour une demi-heure, une heure, ensuite je reviens. J'entends qu'il me répond, ce qu'il avait l'habitude de me répondre.
Qu'est-ce qu'il vous dit ? Ben, t'es en retard ?
Oui, des fois il me dit, t'es encore parti avec ta langue.
Vous êtes bavarde ?
Un peu. Il dirait peut-être beaucoup, lui.
Ça vous rend plus heureuse de parler avec lui en
fait. Oui, j'ai l'impression qu'il est partout. Quand il ne me répond pas, ben c'est qu'il regarde la télévision, voilà.
Et moi, je prépare mon repas.
Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui ?
Sa présence. Je voudrais bien qu'il soit là. Enfin, c'est tout le monde pareil, hein. Il y en a toujours un, à moins d'accident, mais il y en a toujours un qui s'en va avant l'autre.
Alors, moi, j'ai perdu ma maman il y a 3 ans. Et c'est vrai que, au fil des années, j'ai mis en place des petits rituels qui me sont venus, moi, naturellement. C'est tout simplement d'aller à l'église le jour de l'anniversaire de la mort de ma maman. J'allume une petite bougie, je me pose là pendant une demi-heure et voilà, je fais un petit peu le bilan de ce qui s'est passé dans l'année. J'ai l'impression que ça lui ferait plaisir et c'est la raison pour laquelle je le fais. J'ai aussi un rituel qui s'est mis en place avec toute ma famille. C'est un petit peu particulier puisque ma mère avait une jumelle, donc qui forcément partage le même jour d'anniversaire avec elle. Et on a décidé de faire de ce jour-là un événement qu'on a envie de marquer en se rassemblant en famille. On fait en général un petit tour au cimetière. On va déposer une gerbe au cimetière sur la tombe de ma maman. Et après, eh bien, on va avec toute la famille, on se retrouve chez un membre de la famille. Et là, on fête le vrai anniversaire de ma tante. On le dit pas, mais on sent quelque part la présence de ma maman. Et c'est une occasion comme une autre de la fêter, mais encore une fois, tous ensemble et de manière très joyeuse.
J'avais un mari, un excellent mari, un bon papa, un bon papy. Il a attrapé un cancer, il est parti en 6 mois. Il a lutté, mais il n'y a pas de miracle, il n'y avait pas de remède pour lui.
Est-ce que vous pourriez me parler des petits gestes que vous avez maintenant dans votre deuil depuis 20 mois ?
Des petits gestes, c'est le quotidien en fait. C'est sa photo qui est en face de moi, c'est mes visites au cimetière. C'est les pensées en fait, tout le temps, presque, jour et nuit.
Qu'est-ce que vous avez pensé ce matin ?
Ce matin, à mon réveil, je lui ai quand même souhaité une bonne journée. Il n'a rien à dire, depuis qu'il n'est plus là, il a son pyjama, ça fait partie de... c'est sa place, en fait. C'est sa place. Je ne dors pas à sa place, en fait. Rarement, c'est sa place à lui, c'est son pyjama, c'est ses affaires dans le placard, c'est ses chaussons dans l'armoire, c'est... Je ne peux pas encore m'en débarrasser, comme on dit. Je ne peux pas donner ses affaires, je ne peux pas... Il est toujours présent, si vous voulez. Il est toujours présent. J'ai aussi son eau de toilette.
Vous en mettez ?
Non, je le respire. Non, si j'en mets, j'en aurais pu.
Ça vous rappelle quoi quand vous respirez ça ?
Toute sa vie, la mienne, notre vie ensemble. Oui, je m'attache à ces petites choses. Je ne sais pas si je devrais ou non. Parce qu'en fait, j'entretiens peut-être le chagrin. En même temps, je suis obligée.
Vous en parliez ensemble des fois de la mort avant qu'il soit malade, je veux dire ?
Non. C'était rare. Il y a des années, il y a quand même des années, il était en bonne santé. Puis on s'est dit, si je partais avant lui, il n'y avait plus de raison de vivre. Et moi, j'ai dit pareil.
Vous pensez toujours ça ?
Ma raison, c'est mes enfants, mes petits-enfants, mais... Bof, je sais pas. Oui, j'ai perdu quand même ma raison de vivre, oui.
C'était votre moitié ?
C'était mes 3/4.
L'endroit où vous vous sentez plus votre mari, c'est dans le café ou chez vous ?
Non. Pourtant, ici, on a passé une grande partie de notre vie, mais c'est plus chez moi. Oui, ou c'est peut-être parce que je préfère que ce soit comme ça. Dans la solitude, peut-être. Je le ressens mieux comme ça. Je dors presque pas. J'arrive pas à faire le vide. C'est systématique. C'est toujours eux, là. J'arrive pas à oublier ou je veux pas. Je sais pas.
C'est toujours les mêmes pensées qui vous viennent ?
Souvent, oui. Et malheureusement, c'est plutôt la faim que j'arrive pas à supporter.
Vous regardez aussi des photos tous les jours chez vous ?
Seulement celles qui sont exposées, mais j'arrive pas à en sortir d'autres. Celles qui ont toujours été là, je les laisse. J'ai du mal. Parfois, au début, j'avais envie de les enlever. Puis je me suis dit que ça servait à rien, parce que de toute façon, l'image est là, dans la tête, elle reviendra toujours. Et maintenant, j'assume ça quand même, de le voir un peu partout dans la maison. Alors c'est des photos où il est souriant, c'est les vacances, où c'est avec les enfants, les petits-enfants. C'est les bons moments, mais maintenant qu'ils n'existent plus, ça fait mal. Mais je les laisse. Dans son bureau avec ses petites affaires, c'est toujours là.
De temps en temps, vous n'allez pas y jeter un œil
Si, mais j'ouvre un tiroir et je le referme. Si, je caresse sa chemise. Mais c'est difficile quand même. Je me dis qu'avec le temps, peut-être.
Est-ce qu'un jour, vous imaginez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre?
Ah non, certainement pas. C'est clair et net. Ben non, 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 non. Non. C'est facile à dire maintenant que j'ai 64 ans, mais je pensais la même chose quand j'en avais 40 ou 30 ou 20. Je pensais déjà comme ça, qu'il n'aurait jamais pu être remplacé. C'est connu, mon Dieu, dans des soirées dansantes. J'allais l'après-midi danser, j'avais 16 ans. Je l'ai connu à ce moment-là et je pense qu'on ne s'est plus quitté. Sauf quand il est parti à l'armée, donc il a dû aller en Algérie malheureusement. Et pendant 18 mois, on s'est vu que deux fois, mais on s'écrivait tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai encore ses lettres. Au bout de 45 ans, j'ai encore toutes ses lettres.
Est-ce que vous lisez ses lettres encore ?
Il y a un moment que je ne l'ai pas fait. Oui, je ne l'ai pas fait depuis un moment parce que c'est dur. On vieillit ensemble, mais on meurt rarement ensemble. Alors il y en a toujours un des deux qui reste et qui attend. Bon, je me dis, je l'ai attendu pendant l'armée, maintenant c'est lui qui m'attend, mais combien de temps? On verra.
C'était Conversation posthume, un documentaire de Lucie Romano. Merci à Jean-Luc, Guylaine, Anne-Marie, Maurice, Madame de Clincourt, Bruno, Marianne, Gilberte, Karine et Cynthia. Merci aux visiteurs des cimetières du Sud et de l'Est à Lille. Merci à Antoine Chao et Daniel Mermet de Là-bas si j'y suis. Et une pensée spéciale pour mon père.
Voilà, merci à Lucie Romano et aux étudiants de l'école de journalisme de Lille qui ont participé à ce stage que nous avons dirigé avec Antoine, y compris des reportages. Et vous le voyez, vous l'entendez au moins, la baffe est des petits. Merci à tous, merci à Grégory et Jean-Philippe Jeanne. Le blog des salariés de RFI, c'est rfiriposte.wordpress.com. Et pour la baffe des petits, c'était un reportage de Lucie Romano. Ça, je l'ai déjà dit. Il nous reste quelques secondes pour vous donner quelques informations telles qu'on peut les lire dans un livre qui sort aux éditions de La Découverte. Je vais vous dire un truc. Et le truc, c'est les plus belles déclarations de Nicolas Sarkozy. Et c'est un vrai bonheur. Et concernant les journalistes, puisqu'il est quand même pas mal question des journalistes aujourd'hui, en 2007, le président de la République s'adresse aux journalistes dans la salle de presse de l'Élysée en leur montrant sa nouvelle montre et leur dit, vous avez vu, elle est belle, non? C'est pas avec vos salaires de journaliste que vous pourrez vous en offrir une comme ça. Ça s'est rapporté dans Le Canard Enchaîné. Et il répète plus loin, alors là c'est le 16 mars 2009 au cours de la réunion des dirigeants de l'UMP à l'Élysée. Il dit, les journalistes sont des nullards, il faut leur cracher à la gueule, il faut leur marcher dessus, les écraser, ce sont des bandits, et encore les bandits, eux, ont une morale. Et puis concernant la radio et la télévision, je ne veux pas mettre la télévision à ma botte, il faut réformer ce truc, France Télévisions en a bien besoin, il y en a marre de voir sur les antennes régionales de France 3 les journalistes passer leur temps à taper sur moi et sur les mecs de droite, on va réformer et après il faudra bien qu'ils soient neutres. C'était une déclaration du 17 décembre 2008 à propos de la réforme de France Télévisions. La source, c'est Le Canard Enchaîné. C'est pas mal, hein, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Eric Morin et Michel Bézikian, Koy Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, Charlotte Perry nous assiste et Et Agnès Lebot, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la BACIJSU au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, enfin, du mois hier, on devait avoir un reportage à propos du film de Gilles Balbastre qui est passé hier soir. Ben voilà, on est décalé. Et ce sera demain, on ira se balader dans le nord de la France, dans les fortunes et les infortunes des familles du nord de la France. Réclame.